We are enjoying a free ride.
Les pays de la région profitent aussi de cette rivalité entre les deux superpuissances. Car les pays d'Asie du Sud-Est ont pu consacrer beaucoup de leur argent, de leurs ressources, de leur énergie, de leur attention à se développer économiquement. Ils n'ont pas eu besoin d'investir dans leur sécurité ou de protéger leurs frontières maritimes.
RFI, grand reportage.
C'est une région au carrefour des grandes puissances, des grandes tendances du monde contemporain. L'Asie du Sud-Est, un ensemble de 11 pays, dont l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande ou encore le Vietnam, qui se trouvent aujourd'hui en première ligne de la guerre d'influence que se livrent les États-Unis et la Chine. Les deux géants s'y affrontent dans tous les domaines, culturels, militaires et tout particulièrement dans les secteurs économiques et technologiques, au point que certains parlent de néo-guerre froide pour décrire cette rivalité. L'Asie du Sud-Est, prise en étau entre les États-Unis et la Chine, c'est un grand reportage de Carole Isou.
C'est sur l'île indonésienne de Bali, surnommée l'île aux dieux, que s'est tenue vers la mi-novembre la réunion des chefs d'État de 20 puissances mondiales, le G20. Au programme, discussions sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'environnement, le commerce mondial. Mais le moment le plus attendu du sommet était sans conteste la rencontre entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping, dans un contexte de rivalité exacerbée et de fortes tensions autour de la question taïwanaise. Pourtant, d'entrée de jeu et sous l'œil des photographes, Joe Biden a déclaré ne pas vouloir de conflit avec son rival.
Je crois fermement qu'il n'y a aucun besoin de mener une nouvelle guerre froide. J'ai rencontré Xi Jinping à de nombreuses reprises et nous avons eu un dialogue sincère et ouvert. À l'occasion du sommet entre les États-Unis et l'ASEAN, je me suis engagé à travailler avec nos partenaires dans la région de l'Indo-Pacifique afin d'assurer aux pays de la zone un avenir prospère, libre, dans la paix et la sécurité. Je viens de parler avec Xi Jinping en personne de la République populaire de Chine. Nous avons été clairs sur nos intentions. Nous allons nous livrer une concurrence vive, mais je ne cherche pas le conflit. Je cherche à encadrer cette concurrence de façon responsable.
Une saine compétition donc, et rien d'autre. Difficile à croire, puisqu'avec le développement récent de la Chine sur la scène internationale, les enjeux de la bataille entre les deux géants ne concernent plus seulement les gains de parts de marché, mais bien la lutte pour l'hégémonie mondiale. En marge du sommet du G20, dans une petite salle attenante au centre des conventions, sous les frangipaniers, un groupe de chercheurs venus de tous les pays de l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, s'est réuni pour discuter de la meilleure façon d'éviter les erreurs du passé. Pour eux, leur région est celle qui a le plus souffert de la guerre froide, avec 5 conflits sur plus de 40 ans qui ont profondément divisé la région entre pays libéraux comme la Thaïlande ou l'Indonésie et communistes comme le Vietnam ou le Laos. Pour Thitinan Pongsudhirak, chercheur thaïlandais en relations internationales, il ne faudrait d'ailleurs pas parler de néo-guerre froide, mais plutôt d'une continuation d'un conflit idéologique non résolu entre les deux blocs.
L'Asie du Sud-Est, c'est un terrain de bataille naturel entre les États-Unis et la Chine. L'Asie du Sud-Est, c'est un grand espace, une région qui comprend une dizaine de pays, près de 700 millions d'habitants, juste aux portes de la Chine, avec en même temps une ancienne et importante présence américaine. Si vous regardez la carte du monde aujourd'hui, la compétition entre les États-Unis et la Chine est partout. Elle affecte tous les pays, en Amérique latine, en Afrique, mais en Asie du Sud-Est, c'est vraiment la grille de lecture essentielle pour comprendre la région. Parce que les pays de la zone ont besoin de la Chine comme principal partenaire économique et investisseur. Et en même temps, ils se méfient d'elle pour des questions de sécurité. Ils se méfient des ambitions hégémoniques chinoises.
For security concerns, South China Sea, for example, the Chinese have built
On peut prendre l'exemple de ce qu'il s'est passé en mer de Chine du Sud, où la Chine a construit des îles artificielles et les utilise désormais comme base militaire. Ou les nouvelles routes de la soie, un réseau d'infrastructures destiné à renforcer son influence dans les pays en voie de développement. Donc les États-Unis sont vus comme une sorte de contrepoids sécuritaire dans la région pour équilibrer cette menace. On parle beaucoup de nouvelle guerre froide. Pour moi, elle n'a rien de nouveau, c'est plutôt une continuation de la guerre idéologique qui existait déjà du temps de l'Union soviétique. Une guerre d'influence, de style de gouvernance. Donc, quand on entend dire qu'il y a une nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine, en fait, je dirais que nous assistons aujourd'hui à la deuxième manche de la même guerre froide. Je ne pense pas que ce soit vraiment nouveau. C'est plutôt un conflit qui a été réactivé par la rivalité économique. Il y a en fait beaucoup de continuité entre ces deux conflits.
En face de lui, vêtue d'une tenue traditionnelle colorée comme elle les affectionne, la professeure Dewi Fortuna Anwar, figure très respectée du monde universitaire indonésien, un temps conseillère au cabinet du vice-premier ministre. Pour elle, la Chine, qui bénéficiait dès le départ d'une plus grande proximité culturelle avec les pays de la zone, notamment sur les questions de gouvernance et de pratique des affaires, a su consolider ses positions grâce à de gigantesques investissements dans les infrastructures locales, comme ce train qui doit rallier prochainement Kunming au sud de la Chine jusqu'à Singapour, en passant par le Laos et la Thaïlande, et de généreux programmes de prêts bancaires. Plusieurs institutions de gouvernance comme la coopération du Langsang Mekong ont achevé de sceller de solides alliances. Pékin a donc largement distancé les États-Unis qui, s'ils veulent continuer à être significatifs dans la région, doivent revoir leur stratégie.
Pendant la guerre du Vietnam, officiellement, c'était la Russie qui apportait un soutien aux combattants vietnamiens. Mais on sait que c'était déjà largement la Chine. La stratégie des États-Unis à cette époque pour soutenir les forces anticommunistes en ASEAN, c'était de travailler en tandem avec le Japon. Les Américains assuraient les questions militaires, de sécurité, tandis que le Japon s'occupait des questions économiques. Et notamment, les Japonais ont financé beaucoup des projets de développement dans la région ASEAN. Mais aujourd'hui, avec la Chine qui devient un superpouvoir économique, les États-Unis doivent repenser leur stratégie dans la région. Il n'est plus suffisant pour être compétitif dans la région de se contenter de gérer les questions de sécurité. Les États-Unis doivent s'engager davantage sur le plan économique. Ce qu'on reproche aussi beaucoup aux États-Unis, c'est, disons, une certaine hypocrisie, une politique de deux poids, deux mesures, leur unilatéralisme, leur interventionnisme, leur pratique d'envoyer des troupes dans des pays souverains, renverser des gouvernements élus. Ce sont des comportements qui ne jouent pas en faveur de l'influence américaine.
Les États-Unis distancés, une Chine dont on continue à se méfier. Les pays de l'Asie du Sud-Est pratiquent depuis des décennies la diplomatie dite de l'edging, un terme inspiré de la finance pour décrire la gestion des risques. Il s'agit donc d'entretenir des relations cordiales avec les deux pays, de multiplier les accords économiques et même militaires avec les deux puissances, sans jamais donner l'impression d'appartenir à l'un ou l'autre camp. Chaque année, par exemple, la Thaïlande effectue des manœuvres conjointes à la fois avec les soldats américains, baptisés les opérations Cobra, et avec l'armée chinoise, l'attaque du Faucon. Singapour, qui reste l'une des places fortes de l'Occident dans la région, abritant les sièges régionaux de nombreuses multinationales, a pourtant passé plusieurs accords militaires avec la Chine. Pour résumer, la Chine reste le premier partenaire économique, mais une présence visible des États-Unis permet d'équilibrer le risque de voir l'éternel grand frère peser d'une main trop lourde dans les affaires intérieures de ces petits pays. Pour la professeure Anwar, cette rivalité exacerbée entre les deux puissances, même si elle semble parfois prendre en étau les pays du sud-est asiatique, peut en réalité être tournée à leur avantage.
We are enjoying a free ride.
Les pays de la région profitent aussi de cette rivalité entre les deux superpuissances. car les pays d'Asie du Sud-Est, du temps de la guerre froide, du temps de la guerre du Vietnam, du temps de la menace chinoise, où on avait peur que tous les pays de la zone deviennent communistes, eh bien ces pays ont pu consacrer beaucoup de leur argent, de leurs ressources, de leur énergie, de leur attention à se développer économiquement. Ils n'ont pas eu besoin d'investir dans leur sécurité ou de protéger leurs frontières maritimes. C'est en grande partie grâce à cela que l'Indonésie a connu son décollage économique. Aujourd'hui, cela joue en faveur de la Chine, parce que la façon de gagner le cœur des dirigeants locaux en Asie du Sud-Est, c'est clairement à travers l'économie. Les pays de la zone ne se comparent pas en termes de combien d'armes, de tanks qu'ils possèdent, mais plutôt de savoir s'ils ont des gratte-ciel, un métro, des autoroutes.
De l'autre côté de l'île, dans le quartier touristique de Kuta, la firme de consultants Sekindo accueille les étrangers qui souhaitent s'installer à long terme sur l'île. Depuis la pandémie, leur nombre a explosé. À la fois investisseurs chinois et nomades numériques européens ou russes affluent désormais et rêvent de lancer leur propre affaire à Bali. Pour David Sukandi, le jeune PDG du cabinet, la double influence de la Chine et des États-Unis et la place de l'Indonésie au carrefour de plusieurs grandes tendances contemporaines se révèlent une véritable opportunité économique et créative pour l'île.
Je pense par exemple que pour Bali et surtout dans certaines industries comme le tourisme et les technologies, cette double influence de l'Orient et de l'Occident nous a aidé à construire une perspective unique au monde. Ça nous a amené beaucoup d'opportunités, beaucoup d'idées nouvelles. Ça nous a beaucoup inspirés. Sur les religions, c'est pareil, nous sommes musulmans, mais des musulmans très modérés. En Indonésie et en Asie du Sud-Est en général, nous nous plaçons toujours au milieu des grandes tendances du monde. Nous représentons des intérêts stratégiques à la fois pour les États-Unis et pour la Chine. Nous nous tenons aussi au milieu entre libéralisme et communisme. Par exemple, en Indonésie, nous ne sommes pas communistes, mais concrètement, dans le style de gouvernance, surtout dans certaines provinces, on pratique des habitudes venues de pays autoritaires. Par exemple, à l'école publique, on porte des uniformes, il y a le portrait du président partout, on assiste à des cérémonies de levée de drapeau tous les lundis matins. Mais en même temps, on est libre, on dit ce qu'on veut. Donc je pense que pour certaines personnes qui vivent dans des pays à l'idéologie très déterminée, c'est un peu étrange. Mais pour nous, c'est normal d'être toujours entre deux mondes, entre deux styles de vie, de gouvernance. Et cela nous a donné une identité nationale très tolérante, capable d'accepter les différences.
C'est sans doute dans le domaine de la technologie que la rivalité entre les deux superpuissances se fait la plus acerbe et la plus irréconciliable. Dernier épisode en date, au mois d'octobre 2022, les États-Unis ont décidé d'interdire l'export vers la Chine des semi-conducteurs, un composant essentiel des puces électroniques. Une décision inédite destinée à retarder l'avancée chinoise en matière d'intelligence artificielle d'une bonne dizaine d'années, qui s'inscrit dans la stratégie du découplage des économies américaines et chinoises, chaque bloc travaillant désormais à être indépendant l'un de l'autre en cas de crise majeure. L'entreprise chinoise de télécommunications Huawei a plusieurs fois fait les frais de cette stratégie, notamment avec l'impossibilité d'utiliser les applications Google sur des téléphones Huawei. Et pour répliquer, l'équipementier chinois a organisé à Bangkok un grand forum mondial de la téléphonie qui a attiré près de 10 000 visiteurs d'une centaine de pays. Le but officiel, multiplier les partenariats avec des entreprises du monde entier et démontrer leur prouesse technologique. En coulisses, effectuer un travail de lobbying afin de rallier des soutiens pour contrecarrer la stratégie américaine. Marut Pensuk est un influenceur thaïlandais. Il s'est rendu au salon pour profiter de partenariats avec Huawei, comme il le fait aussi avec d'autres marques. Il explique comment les ingénieurs et consommateurs d'Asie du Sud-Est ont inventé des techniques pour échapper à la rivalité entre les deux géants.
Depuis plusieurs années, l'entreprise Huawei doit faire face à des interdictions et des blocages lancés par les États-Unis.
Par exemple, avant même l'interdiction de la vente de semi-conducteurs aux entreprises chinoises, ils ont acheté des puces en masse pour préparer l'avenir. Ce n'est pas nouveau, ils avaient déjà dû faire face à l'interdiction d'utiliser des applications Google. Mais en Asie du Sud-Est, on bricole. Il y a des logiciels pour faire fonctionner les applications Google sur des téléphones Huawei. C'est toute une stratégie qui est mise en place pour échapper aux conséquences de cette guerre technologique sur les consommateurs. L'entreprise Huawei est l'une des plus avancées en Chine et dans le monde. Mais ils sont très affectés par des décisions politiques du pouvoir américain. Donc en ce moment, ils essaient de passer des accords avec d'autres entreprises, notamment des petits fabricants d'équipements asiatiques dont les noms ne sont pas encore connus pour continuer à fonctionner malgré ces interdictions. Ils cherchent aussi des recours légaux contre les boycotts. Mais pour l'instant, leur position est très compliquée parce qu'ils sont perçus comme le bras armé du pouvoir chinois.
L'autre objectif du forum, c'est de convaincre des gouvernements de signer des accords sur la technologie 5G qui promet d'accélérer l'économie numérique. La firme chinoise annonce des projets d'envergure en Indonésie, aux Philippines, en Malaisie et en Thaïlande, où elle lance un projet d'hôpital connecté qui permettrait aux médecins de poser des diagnostics à distance dès la prise en charge par une ambulance entièrement robotisée. Le projet a reçu un fort soutien des autorités locales.
L'entreprise Huawei vient de signer des accords avec une vingtaine d'autres compagnies de télécommunications afin de contourner l'interdiction de la 5G chinoise et faire en sorte que si les consommateurs ont des téléphones de marque partenaire, ils pourront aussi utiliser le réseau 5G de Huawei dans de nombreux pays. La technologie 5G a beaucoup de valeur. Elle peut transformer beaucoup de choses dans les entreprises et dans la vie des gens. Mais pour l'instant, on n'a pas le droit de l'utiliser. La véritable raison de cette interdiction est politique, parce que l'entreprise Huawei fait peur à de nombreux gouvernements. Leur stratégie, c'est donc de multiplier les partenariats, notamment avec des compagnies nationales au nom moins connu, comme Oppo. Cela devrait permettre aux utilisateurs, en particulier en Asie du Sud-Est, de ne pas être obligés d'attendre une résolution politique des conflits avant de pouvoir profiter de la 5G.
Si les sociétés civiles des pays d'Asie du Sud-Est essayent par tous les moyens de contourner l'affrontement entre les deux puissances, les gouvernements, eux, font leur propre choix d'alliance. Et la façon dont chaque pays navigue entre les deux dépend aussi largement, souligne Titinan Pongsudhirak, de sa politique intérieure. Exemple avec la Thaïlande.
La façon dont la Thaïlande navigue dans cette rivalité entre les États-Unis et la Chine reflète sa propre politique intérieure. Si la Thaïlande, dans un avenir proche, devient plus démocratique, elle va sans doute s'ouvrir davantage au monde, à l'international, et devenir plus progressiste, plus favorable aux pays occidentaux. Mais si la Thaïlande continue à exercer un pouvoir autoritaire, comme elle l'a fait ces dernières années, ses dirigeants n'auront pas d'autre choix que de se rapprocher de la Chine afin d'avoir un soutien à leur régime. Parce que les États-Unis et les pays occidentaux, eux, en profiteront pour réclamer des réformes en termes de liberté civile et individuelle, en termes de droits humains, de droits fondamentaux. Et cela pourrait affaiblir le régime. Je pense que pour comprendre comment les pays de la zone gèrent leurs relations aux deux superpuissances et comment ces lignes bougent en permanence, il faut comprendre les politiques intérieures de chaque pays. Tant que la Thaïlande reste autocratique, elle devra compter de plus en plus sur la Chine.
Des lignes complexes et mouvantes pour un choix impossible à trancher. La situation rappelle celle de 1955, quand, en pleine guerre froide, lors de la fameuse conférence des non-alignés qui s'était tenue justement à Bandung, en Indonésie, 29 pays asiatiques et africains avaient proclamé leur refus de prendre parti entre les États-Unis et l'Union soviétique. Aujourd'hui encore, les pays du sud-est asiatique refusent à nouveau de choisir leur camp et appelle à une véritable multipolarité du monde.
L'Asie du Sud-Est, prise en étau entre les États-Unis et la Chine, un grand reportage de Carole Izou, réalisation Pauline Leduc.